Bonjour. Un léger mistral caresse nos joues. Sur le ciel, d'un bleu immaculé se découpent des falaises de calcaire. Ce sont les fameuses dentelles de Montmirail qui nous observent du haut de leurs 200 millions d'années d'histoire. Enfin, à quelques jours près, m'a dit Patrice. Sur la falaise, des grottes dont l'antique nom de Balme donne son nom à la commune. Sous nos pieds, une terre jaune. À quelques centaines de mètres d'ici, elle est plutôt rouge. Elle peut aussi être un peu grise. On appelle cela un terroir exceptionnel. Autour de nous, des vignes à perte de vue, mais pas seulement des vignes. Le paysage est rythmé de bosquets, de chênes verts, quelques pins, des cyprès, des oliviers, des figuiers. La garrigue nous entoure. Elles sont encore un peu timides, car leur saison commence à peine, mais les cigales sont bien là, en fond sonore. Dans quelques semaines, leur chant sera assourdissant. Il est midi, le soleil cogne déjà fort, mais par bonheur, nous sommes à l'ombre. Sur la table, des câbles, des micros, des bouteilles et des verres, quelques assiettes à grignoter pour sublimer les vins que nous nous apprêtons à boire. Autour de la table, mes fidèles camarades, Laurent et Patrice, comme au premier jour de ce podcast, c'est un de ces moments qui se grave instantanément dans votre esprit et dont vous savez qu'il ne s'effacera pas. Être en pleine nature, boire de beaux vins, en parler avec des passionnés, tenter avec cette matière de rendre hommage à leur travail en faisant une belle émission de radio. Chers amis, quel bonheur d'être ici et maintenant. Ce 92e épisode s'intitule « Baume de Venise, le terroir aux deux visages ». Bienvenue dans la Terre à boire. Donc c'est un épisode évidemment bien particulier car nous sommes littéralement dans les vignes, au pied, je le disais, des dentelles de Montmirail, dans la commune de Baume de Venise, Vaucluse, 84, à une grosse demi-heure d'Avignon, à un jet de pierre de Carpentras et d'Orange, aux portes de la Provence. Je précise tout de suite que, comme l'épisode 84 qu'on avait consacré au terroir de Rasteau, l'émission d'aujourd'hui est parrainée par l'interprofession des vins des Côtes-du-Rhône. Nous les en remercions évidemment grandement pour financer cette émission et puis pour nous inviter ici dans ce cadre absolument exceptionnel par cette belle journée de juin. Au programme, je le disais, plusieurs invités, de très beaux vins évidemment. À mes côtés, pour parler donc des vins de Baume de Venise, Patrice Defay, Laurent Dalso. Bonjour Patrice, comment ça va?
Bonjour, j'ai été plus mal, donc là ça va très très bien.
Le cadre fait quelque chose, je pense.
Oui, les cigales, les dentelles en fond, le ciel bleu, les vignes à 10 mètres derrière nous, donc on est très bien là.
Bonjour Laurent, comment ça va?
Bonjour, j'ai envie de dire on ne peut mieux, hein, pour les mêmes raisons que Patrice et toi.
C'est un peu ton coin, presque.
En plus, c'est effectivement un retour au Vaucluse que j'apprécie particulièrement, oui.
Il a fait le guide dès qu'on est arrivé, là, nous a emmené dans les petits restaurants, la bonne auberge, le bon endroit pour dormir.
Bon, j'espère que vous étiez content de ce que j'avais sélectionné pour vous.
On a bien dormi. On a bien dîné également hier. Et bien sûr, nous avons des invités. Bonjour Claude Chabran.
Bonjour.
Tu es le président du conseil d'administration de Ronea, la cave coopérative qui regroupe historiquement les caves de Baume et de Vaqueras, mais aussi aujourd'hui de Visan et de Rasteau. Tu nous expliqueras ce qu'est une cave coopérative de nouvelle génération. C'est une formule que j'ai trouvée sur le site de Ronea. Donc évidemment, ça interpelle un petit peu notre curiosité. Et nous avons aussi autour de la table Thomas et Sophie Julien.
Bonjour,
bonjour Thomas, bonjour Sophie. Et vous, c'est le domaine de la ferme Saint-Martin. Voilà, bonjour à vous deux, merci d'être là. Le domaine de la ferme Saint-Martin, dont on va parler, puisque c'est le vin qu'on a actuellement dans nos verres et qui nous a bien plu. C'est à la fois du vin et puis c'est... j'allais dire, un domaine de nouvelle génération, en tout cas bien d'aujourd'hui, puisque en plus du vin, vous proposez aussi de l'accueil, l'œnotourisme, il y a même des activités culturelles un petit peu, des concerts, la fête de la musique.
Oui, tout à fait, et puis du théâtre. Ouais.
Voilà. Donc on va essayer de parler de Baume de Venise, à travers vous, parler aussi de vos confrères, consoeurs, vignerons qui font vivre cette appellation et donner envie aux gens d'écouter, de goûter ces vins, de venir, pourquoi pas, faire un tour dans la région, même s'ils sont déjà nombreux, hein, quand même.
C'est une terre de
tourisme.
Il y a des cyclistes.
Oui, ça, c'est un truc qu'on voit tout de suite. Hein, ouais, parce que ça. Je ne l'ai pas cité, il y a les dentelles de Montmirail, mais évidemment, il y a le géant de Provence, le Mont Ventoux, qui est tout près aussi. Et on voit passer pas mal de cyclistes. On va déguster ce vin, on va parler du coup de votre domaine, la ferme Saint-Martin. Au préalable, je voudrais quand même qu'on se situe un petit peu. À ce moment-là, l'émission, je me tourne toujours vers Patrice. Patrice qui a préparé un petit peu en termes d'histoire et de géographie.
Le maître capello de l'émission.
Qu'est-ce que tu peux nous dire de Baume de Venise ?
Écoutez, je parle sous l'oreille attentive des vignerons ici présents. Mais d'abord, c'est un vignoble qui est millénaire, puisque... Dès le 5e siècle, des colons grecs se sont installés au pied des dentelles pour lancer la viticulture. Et comme le dit Pline l'Ancien, dès le 1er siècle, le muscat était déjà réputé au 1er siècle de notre ère. Donc ça prouve l'ancienneté du vignoble.
Pline l'Ancien parle déjà du muscat.
C'est ça, dans les années 50. Hein, mais
avant
Jésus-Christ. 0050. Non, juste après.
Ah oui, juste après.
50 ans après Jésus-Christ. Et effectivement, la caractéristique, c'est qu'on a deux AOC sur ce territoire. L'AOC muscat de Baume de Venise, qui date de 43, et l'AOC Baume de Venise en rouge, qui, elle, date sous cette appellation-là, en tout cas de 2005. Et on a à peu près 700 hectares d'encépagement AOC en rouge et 300 hectares de muscat petit grain pour l'appellation. Et la grande caractéristique, en dehors des cépages, c'est la complexité géologique, puisqu'on est au pied des dentelles. Il y a un phénomène assez rare qui se passe ici, qui se passe nulle part ailleurs, c'est que les dentelles se sont structurées il y a 200 millions d'années, dans ce qu'on appelle le trias, ère secondaire, suite au mouvement de la faille de Nîmes qui passe... d'ici jusqu'à Barcelone. Et ces mouvements tectoniques font que un sol qui théoriquement est à 1500 mètres sous terre habituellement, là il remonte en surface avec des affleurements. Donc on a une grande diversité de sols et nulle part ailleurs.
Il y a les trois terres dont je parlais, donc ça correspond à ça, cette mosaïque. Hein.
Exactement. On reviendra avec les experts plus tard, mais effectivement, ce qu'on appelle les terres jaunes, les terres grises et puis les terres rouges. Quoi.
Laurent, oui. Baume de Venise, c'est un nom qui parle à tes clients du Wine Therapy ?
Oui, bien sûr. Beaucoup ont l'impression que ça peut être effectivement un vin italien. Hein, ça arrive. Mais quand...
Assez peu de gondoles, par contre, ici. Des cyclistes, beaucoup.
On n'en a pas vu, effectivement. Non, la vallée du Rhône est une région qui attire quand même beaucoup les clients. Hein. Au moment de choisir un vin, en particulier un vin rouge, le Rhône est souvent cité. Après, je pense que l'appellation en elle-même n'est pas spontanément citée. Il faut vraiment la faire découvrir. Mais comme tu le sais, au bar, les gens goûtent à l'aveugle chez moi. Donc, quand je propose parmi les trois verres, les trois vins qui peuvent déguster... un baume de Venise, il y a des chances qu'il soit retenu, oui, tout à fait. La particularité de baume de Venise sur les rouges, chez moi en tout cas, c'est que je travaille avec un domaine sur cette appellation. Il y a du Carignan aussi, en plus du Grenache et de la Syrah. Et ça fait quelque chose qui interpelle les clients quand ils le goûtent, oui.
Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, la dégustation à l'aveugle. On a procédé pour cette émission, comme pour celle de Rasto, de la manière suivante. L'interprofession nous a envoyé des échantillons, a fait un appel à échantillons auprès des vignerons de l'appellation. Donc, vous avez eu la gentillesse d'envoyer quelques échantillons qui sont parvenus chez nous à Paris. La petite différence par rapport à ce qu'on avait fait la première fois, c'est qu'on l'a vraiment fait à l'aveugle. Donc, on a masqué toutes les bouteilles et on a passé une soirée entière autour de vos vins. Il y avait, je crois, une douzaine de cuvées de rouge, 6 cuvées de muscat. Et c'est un exercice qui est particulier, en vérité, et à plein de titres. D'abord, déguster à l'aveugle, ça nous met vraiment nu face à la sensation. On découvre sans a priori, on a à peine la forme de la bouteille. Donc, on essaye d'être vraiment neutre. Nécessairement, ça fait que les vins sont dans un ordre un peu aléatoire. Donc, ça a aussi un impact parce que un vin on peut le trouver formidable. Du coup, le vin d'après, si on l'avait bu avant, on l'aurait peut-être trouvé super et on le trouve un peu décevant par rapport au N-1. Comment vous avez trouvé cet exercice, Laurent ?
Oui, ben alors pour moi c'était effectivement amusant, très amusant, puisque je me suis soumis à l'exercice que j'impose à mes clients, donc ça c'était plutôt chouette. Après, on a tous constaté, on a eu des surprises, on s'est beaucoup amusé avec cet exercice. Il aurait fallu, dans un monde idéal, avoir une espèce d'arbitre qui connaissait les vins, qui connaissait la différence de millésime, la différence d'élevage, pour pouvoir essayer de les séquencer le mieux possible dans la dégustation. Nous, on a pris le parti de tous déguster les vins pour donner notre avis. Donc, j'ai de façon tout à fait aléatoire mis des chaussettes très rapidement sur toutes les bouteilles, et on les a ouvertes et on les a goûtées les unes après les autres. Donc, vous pouvez imaginer effectivement que derrière, entre un vin qui a été prévu pour être immédiatement accessible sur le fruit, il va avoir une perception totalement différente du vin qui a été élevé sous bois et qui demande une espèce d'oxygénation beaucoup plus longue. Donc évidemment, tous les vins ne partent pas à armes égales, mais bon, ça c'est un peu la particularité de ce produit, hein, de ce vin qui est changeant de toute façon. Hein. Moi, j'explique régulièrement à mes clients que les vins que je sers sont vivants. Donc, un soir, on ouvre une bouteille, c'est fantastique tout de suite. Et puis, une semaine plus tard, ça va être un peu plus timide. Bon, bah, c'est ce qui s'est produit pendant cette dégustation à l'aveugle. Mais on était ravis de faire l'exercice parce qu'on est allé jusqu'au bout de la démarche. C'est-à-dire qu'effectivement, on a sélectionné, où on a retenu les vins qui nous avaient le plus parlé, sans espèce de faux semblant. Oui, voilà, exactement. Merci Patrice, parce que bon, il peut être tentant des fois de se raccrocher quand même à nos convictions. Il y a des chapelles. Bah, je pense qu'avec cet exercice, on s'est prouvé qu'on était capable de ne pas avoir de chapelles.
De fait, on est quand même souvent défenseur de vins bio, de petits domaines. On a fait des sélections, on a écarté des vins qui étaient bio. On a sélectionné des vins qui étaient conventionnels. On a sélectionné un vin de Ronéa qu'on va goûter juste après, d'une cave coopérative, ce qui n'est pas les vins qu'on a le plus souvent l'habitude de présenter, de recommander. Et évidemment, votre vin de la ferme Saint-Martin. Pour tout dire, on a remonté à un petit groupe de vins et ensuite on a fait le casting d'aujourd'hui en fonction des disponibilités et tout ça. Donc on n'a pas élu le meilleur vin de Baume du Vignes. C'était pas du tout ça l'objet. Voilà, je referme la parenthèse sur cet exercice de la dégustation, mais qui rend toujours humble et qui est aussi un plaisir, en tout cas une chouette soirée, parce qu'on a passé une soirée à parler de votre terroir, à goûter vos vins les uns après les autres. À force d'en parler, on a peut-être envie d'en goûter. C'est donc une cuvée qui s'appelle Les Terres Jaunes. Je me tourne vers toi, Thomas. Est-ce que tu peux nous présenter ce vin ? À quel terroir il correspond ? Et on va le déguster pendant ce temps. Et après, on parlera des accords que Héloïse et Florence ont préparés pour nous. Et le vent commence.
Alors, on a un petit peu de Mistral ici autour de nous. Alors, ce Mistral qui fait partie du terroir de l'appellation Baume de Venise et puis de la vallée du Rhône Sud en général.
Il a
tant de vertus, voilà, qui assèche au niveau des maladies cryptogamiques de la vigne et qui fait vraiment partie du biotope autour de la vigne à Baume de Venise. On parlait aussi je reviens un petit peu sur l'appellation, on parlait aussi de la garrigue aussi qui entoure toutes ces vignes. C'est un gros point fort de l'appellation Baume de Venise, d'avoir toute une garrigue autour, des pins, des chênes verts, des chênes blancs, toutes sortes de plantes aromatiques qui font partie intégrante du terroir.
Toute petite parcelle, hein.
Voilà, on a beaucoup de petites parcelles. Alors nous, on est sur les hauteurs de l'appellation Baume de Venise et on a beaucoup de parcelles de 4 rangées, 6 rangées, 8 rangées. Et on a beaucoup de parcelles qui sont totalement entourées de forêts, ce qui est un gros point fort pour l'équilibre de la vigne. Et d'autant plus quand on travaille en bio ou en biodynamie, voilà, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup. Et pour finir sur l'appellation Môme de Nice, il y a aussi cette altitude qui fait partie des terroirs les plus hauts de la l'appellation Rhône Sud, puisqu'on a des vignes sur Môme de Venise entre 300 et 550 mètres hors taxe d'altitude. Ce qui confère au vin une certaine fraîcheur, puisqu'on pourrait comparer l'altitude à la latitude, c'est-à-dire que si on pourrait considérer que si on monte de 100 mètres ou de 200 mètres, on monte 50 km ou 100 km sur une carte de France, quoi, vulgairement. Donc ça, c'est aussi un point intéressant, je pense.
L'évolution du climat, c'est précieux.
C'est très précieux, oui. Ouais, tout à fait, c'est très précieux.
L'altitude permet aussi d'avoir un peu d'amplitude thermique diurne entre le jour et la nuit, et donc de favoriser les maturités phénoliques des raisins, puisqu'on a plus de fraîcheur la nuit et les raisins peuvent récupérer un peu de la chaleur qu'ils ont absorbée dans la journée, quoi.
Exactement, et c'est au niveau de l'équilibre des vins, c'est quelque chose qui est très important d'avoir un gros écart de température entre le jour et la nuit. Voilà. Donc du coup, on a bu, il en reste un petit peu dans les verres, les terres jaunes. Ça, c'est un vin qu'on produit historiquement dans la famille depuis pas mal d'années. Donc,
tu es la troisième génération de vignerons, ouais, à la ferme Saint-Martin.
C'est ça. Donc, mon grand-père est arrivé ouvrier ici, et puis par un concours de circonstances, il a pu racheter un tiers du domaine en 1955. Puis l'année suivant son achat, il y a eu le gros gel de 1956. Qui est très connu dans le sud. Et donc, suite à ce gros gel, beaucoup, et mon grand-père en partie, ont replanté essentiellement de la vigne, puisque la vigne produit au bout de 3-4 ans, alors que tous les fruitiers produisent au bout de 10-15 ans, d'autant plus avec les sélections d'antan. Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup plus de vignes. Et puis, mon grand-père a fait un petit peu de vin aussi dans la Drôme, parce qu'il était originaire de là-bas. Donc, mon grand-père était à la cave coopérative au début, puis il a sorti sa première cuvée en 1964. À cette époque-là, il y avait 5-6 hectares de vignes. Et puis ensuite, mon père est arrivé en 1979, et puis il a développé le domaine. On est passé de 4-5 hectares à 7-8, puis 10, puis une quinzaine d'hectares. Et ensuite, mon père, un peu comme nous tous dans la famille, aime bien traîner les bars à vin, certains cavistes, et s'est retrouvé dans certains cavistes et surtout certains restaurateurs dans les années 85-90, à l'occasion des salons des vignerons indépendants. Et de là est née une certaine passion des vins. Alors, on va pas utiliser le mot nature à la mode, parce que je trouve qu'on en parle beaucoup trop, mais qui tendent vers ce mode de vinif. Et ensuite, moi, j'ai bossé une quinzaine d'années avec mon père, et suite à un compagnonnage vigneron dans toute la France, j'ai un peu généralisé cette façon de bosser au domaine. Et aujourd'hui, voilà, on a réduit, on était à 27, on est passé à une vingtaine d'hectares. Dont, pour parler de Môme de Venise, dont 12 hectares en Môme de Venise. Et sur ces 12 hectares de Môme de Venise, 7 hectares font les terres jaunes. En fait, les terres jaunes qu'on est en train de goûter, c'est la cuvée la plus représentative du domaine. C'est celle que je fais le plus aujourd'hui sur l'appellation Môme de Venise. Donc là, on goûte le millésime 2020. Alors là, il y a sur 2020, il y a 6 vinifications différentes qui sont faites par famille de parcelles et par famille de cépages. Puisqu'on a des vignes évidemment entre 300 et 600 mètres là-dessus, sur cette cuvée, et avec des sols très différents les uns des autres.
6 vinifs différentes que tu assembles ensuite.
Voilà,
voilà,
c'est ça, exactement. Que j'essaie d'assembler le plus tôt possible. Alors, quand les sucres se finissent, j'arrive à assembler ça à Noël. L'idée, c'est de tirer le meilleur de chaque famille de parcelles. On va avoir une partie avec les parcelles les plus productives, entre guillemets, voilà, sachant qu'on tourne autour de 30 hecto-hectares, qui vont être vinifiées à la méthode beaujoloise ou alors à basse température. Il va y avoir les banquettes les plus exposées au sud, les plus en altitude, qui vont être macérées pendant 5-6 semaines. Il va y avoir un petit peu de macération carbonique. Après, il va y avoir un petit peu les cépages qui sont faits séparément. Puisqu'on a pas mal on a un petit peu de Syrah dans l'appellation, on a les grenaches, et puis après je plante pas mal de vieux cépages aussi, là notamment qui sont en pleine production maintenant, donc on a le terrain noir et puis la counoise qui sont aussi faites séparément.
Et puis après, dans l'assemblage, je crois qu'il y a 65% grenache, 25% syrah, un peu de counoise et un peu de terrain noir.
Voilà, c'est ça. Et après, un petit peu de cinsault et de mourvèdre et de carignan.
Que dit le cahier des charges de l'appellation en termes
alors,
de cépage?
Donc, on doit grenache avoir minimum 50% de grenache et minimum 25% de syrah dans l'encépagement du domaine. Ensuite, on a les cépages autorisés qui sont...
Pas nécessairement dans le vin que tu...
Pas nécessairement dans le vin.
Tu peux faire un 100% grenache qui sera
toujours la bonne de Venise. La particularité des décrets d'appellation, c'est que c'est surtout l'encépagement qui est pris en considération. Oui.
Ça fait. Bon, toutefois, on a des cépages autorisés et le terrain noir et la counoise en font partie. Voilà.
Juste, ça m'intrigue. Tu voudrais faire un 100% syrah ici, tu pourrais l'appeler Bonne de Venise.
Bah après,
si ton domaine, il y a des gens qui...
Non, il faut faire... non, mais il faut 50% de grenache. Donc,
non, dans non, le vin, c'est sur l'encépagement.
Ou dans l'encépagement du domaine.
C'est simplement issu d'assemblage. Le vin, il faut qu'il soit issu d'assemblage. Donc,
Jean-Paul Henrès qui vient apporter son complément.
Non, on n'a pas le droit.
On n'a pas le droit de faire de monocépage.
Il y a
Claude,
minimum, un minimum un assemblage, même s'il est faible, mais oui, il doit y avoir un minimum d'assemblage. On peut pas avoir
pas de monocépage en bonne fin.
D'accord. Voilà. Par contre, effectivement, les pourcentages que citait Thomas tout à l'heure sont des pourcentages qui sont effectivement à l'encépagement. Ouais. Mais les assemblages doivent comporter au minimum un assemblage.
Donc si ton grenache coule une année et que finalement la répartition de ta production n'est pas, ou même tout simplement le rendement de chaque parcelle est différent, de chaque cépage est différent, ça ne reflète pas effectivement l'assemblage du
Après,
vin
le profil,
lui-même.
On va parler du vin peut-être qu'on est en train de déguster. Le profil typique, c'est ce type de structure
général,
avec une majorité
de grenache. Avec une bonne part de syrah complétée par des cépages rouges plus spécifique.
Oui, je pense que si on se place au niveau de l'appellation, on a 95% des vins qui se représentent à peu près, qui respectent à peu près la moyenne, c'est-à-dire 50-60% de grenache, 25-30% de syrah, et puis un petit peu de cépages secondaires, oui. Un petit peu de mourvèdre également, et puis après des cépages secondaires.
Sachant que là, je pense que la tendance de tous les vins de Côte-du-Rhône sud est d'aller chercher un peu de légèreté, plus d'infusion que d'extraction. Donc, le grenache a plein de qualités, mais il a aussi des défauts. Donc, il faut qu'il soit équilibré par des structures tanniques du mourvèdre ou de l'acidité de la syrah pour aller vers des équilibres qu'on retrouve dans le verre. Enfin, moi, je ne sais pas ce que vous pensez du vin, mais ce qu'on a apprécié, que je retrouve lors de la dégustation, que je retrouve ici, c'est le côté assez fruits rouges, assez... tendu malgré tout pour un vin du sud, c'est quelque chose d'assez tendu, du fruit rouge,
une certaine acidité. Très souple, je pense que pour un vin de 2020, effectivement, ce qu'on apprécie, c'est une structure tannique qui est très souple. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît dans ce vin, en plus de la richesse du fruit rouge, effectivement. Mais bon, tu l'expliquais, Thomas, effectivement, que tu vas chercher là de plus en plus des cépages un peu anciens, enfin des cépages qu'on a un peu oubliés ou qu'on a un peu arrachés à un moment donné, pour gagner aussi en fraîcheur dans tes vins.
Alors effectivement, on court après la fraîcheur, quoi. On court toute l'année après la fraîcheur, pour ma part. Là, les terres jaunes 2020, donc 2020 affiche 13,5 degrés, donc on peut dire c'est beaucoup, mais pour dans le sud de la vallée du Rhône, on a vraiment envie d'avoir des vins faciles, digestes, sur la tendresse, sur la facilité. Et effectivement, des cépages comme ça, alors il ne faudrait pas avoir que ça, attention, hein, puisque je disais tout à l'heure, le terrain noir Pour avoir le même pH que le grenache, il faut quasiment 4 ou 5 semaines de plus. Et avec 4 ou 5 semaines de plus, ça fait 2 degrés de moins. Donc, c'est-à-dire qu'au même moment, ça fait 4 degrés de moins à peu près. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait que ça pour l'instant. Pour l'instant. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on plante de la vigne, c'est minimum pour 30 ou 40 ans. Et à la vitesse où les choses changent, je pense qu'il faut vraiment réagir rapidement pour garder de l'équilibre et surtout avoir voilà, des vins qu'on ait envie de boire et qui ne soient pas trop fatigants.
17 degrés affichés sur la bouteille, ça risque de faire peur, effectivement. C'est pas ça trop la de tendance
peur.
De
ça risque de faire peur. Et je pense qu'on a tout un patrimoine génétique en France qui est magnifique et il est en train de nous glisser entre les doigts et il faut absolument qu'il y ait beaucoup de vignerons qui sauvegardent ce patrimoine génétique en récupérant des vieux bois sur des vieilles vignes car il y a beaucoup de vignes qui sont arrachées et un patrimoine qui s'envole et si jamais on veut toujours faire du vin et si on peut et si on est toujours là pour faire encore du vin d'ici 20-30 ans on aura besoin de ce patrimoine génétique et donc outre l'équilibre des vins il y a évidemment la complexité des vins mais il y a aussi cette notion de sauvegarde qui est pour moi très très importante quoi.
On en a parlé il n'y a pas très longtemps avec un certain Lilian Berrillon.
Voilà, on bosse beaucoup avec Lilian. Ouais.
Ah oui, ouais.
Bon, on l'a eu dans l'émission il y a quelques semaines.
D'accord. Sophie ?
Oui, je voulais simplement dire que c'est vrai que nous, dans le sud de la vallée du Rhône Sud, on a quand même pas mal de cépages. Et c'est vrai que ça vaut le coup un peu de jouer avec aussi, comparé à la vallée du Nord, la vallée du Rhône Nord, ouais. Qui en ont quand même beaucoup moins.
Mmh, oui, il y a 25 cépages à peu près. Enfin. Autorisé dans
le bassin. Okay. On fait d'ailleurs des ateliers assemblage avec ces cépages-là. Ça, c'est plus Sophie qui s'en occupe. Enfin, moi, je fais juste des petits monocépages, des micro-mises de Terre Noire, de Counoise, de Cinsault, de Mourvèdre, de Carignan, de Grenache, de Syrah. Et ensuite, on anime au domaine quelques différentes choses aussi.
Sophie, ouais, j'allais y venir à ça parce qu'on ne peut pas parler de cette région sans évoquer justement la dimension œnotouristique, le fait que de plus en plus de gens qui venaient... C'est pas nouveau que les gens viennent en vacances ici, mais le vin a pris une part plus importante aujourd'hui dans l'animation culturelle. Enfin, il y a le sport, le vélo, puis il y a aussi le vin.
Oui, et puis on se rend compte que les gens, ils ont envie de passer du temps un peu les pieds dans le terroir, quoi. Ouais. Et de passer du temps aussi avec nous et de découvrir aussi autre chose.
Alors vous avez mis en place une palette de dégustations et de propositions qui est quand même voilà, singulière. Il y a les balades vigneronnes, ça c'est classique, mais il y a un chemin fléché pour oui. la promenade dans les vignes, l'atelier assemblage dont tu oui. parlais. Donc j'imagine oui. les clients, les consommateurs qui viennent, enfin les touristes qui viennent, vous leur proposez d'assembler un petit peu entre ouais, différents cépages.
Donc c'est des, comme disait Thomas, très justement, voilà, ce sont des monocépages. Donc on a les cépages qui sont connus, bien sûr. Donc on va avoir Grenache, Syrah, un
hyper
peu de base.
Didactique, ça.
Et
ça
puis ensuite, moi j'aime bien rajouter un cépage oublié parce que je trouve que ça permet d'avoir aussi des interactions et de pouvoir répondre aussi de parce que les gens se questionnent pourquoi ces cépages ont été mis à un moment donné de côté. Et donc voilà, donc ça permet aussi de passer un bon moment et puis il faut que ce soit aussi quand même assez ludique. Donc le principe c'est de goûter quatre cépages et puis de faire tout un laus un petit peu sur l'histoire aussi de ces cépages et puis de comprendre ce que ça va apporter dans un assemblage parce que le truc c'est ça, c'est de se mettre un peu du côté du vigneron. Donc qu'est-ce que ça va apporter à l'assemblage, c'est-à-dire que le grenache par exemple, on va dire que c'est vraiment le tronc du vin, c'est quand même un cépage qui a une certaine structure alors que si on l'assemble par exemple avec du Cinsault, qui va être un cépage en général quand même beaucoup plus léger, avec moins d'alcool, moins de couleurs, etc. En fait, on se rend compte que du coup, ça permet un peu de calmer le feu et puis d'avoir un équilibre peut-être plus sympa et puis d'arriver à des vins qu'on appelle aujourd'hui des vins de copains, des vins glouglou.
Buvabilité, quoi.
Oui, exactement, avec une super digestibilité.
Le no-tourisme, c'est aussi ce qu'on a dans les assiettes.
Oui, tout à fait. Parlons des accords, parce que... On va revenir sur les activités du domaine, mais faisons une parenthèse, tu as raison, sur l'accord, parce que le vin, moi, je le trouve super, mais effectivement, on retrouve cette fluidité, cette douceur qu'on avait découverte à l'aveugle. Dans les accords...
On nous a servi un petit poireau brûlé, ventrèche de maigre de ligne, fumé au kumbawa. Et ça se marie très très bien, comme quoi certains poissons peuvent se marier aussi avec des rouges... d'une certaine fraîcheur. Mmh. Et ça ne réagit pas forcément sur les acides gras avec le goût métallique. Là, on n'a pas le goût métallique.
C'est encore une fois une histoire de structure de vin, hein, de tanins. À partir du moment où, les tanins sont souples, le poisson, ça peut très bien passer.
On remercie l'Auberge Saint-Roch pour ces délicieuses bouchées qui accompagnent
une bonne adresse, un baume de Venise.
Ajouter quelque chose.
C'est vrai que dans la vallée en général, sur les rouges, on a historiquement cette notion de dire un bon vin rouge, il faut qu'il soit tannique et structuré. Pour extraire le terroir, il faut que ce soit structuré. Mais on a des très grands blancs de Bourgogne qui reflètent énormément leur terroir, qui ne sont pas forcément macérés. À l'extrême, et donc je pense qu'il faut faire il faut scinder entre le fait dans la vallée du Rhône Sud, il faut qu'on sépare pour extraire le terroir, on n'a pas besoin d'extraire les tanins. Ce sont deux choses un petit peu différentes en cave. Il faut absolument intégrer ça. C'est-à-dire, on peut faire des vins de terroir qui ne sont pas forcément structurés et volumineux. On peut exprimer le terroir autrement, en fait.
Le fruit, hein, ces vins qui peuvent être très fruités, ils expriment aussi
bien sûr, le fruit, la tension, la digestibilité, l'élégance, la tendresse. Voilà.
L'équilibre, quand même, globalement.
Enfin, exactement.
Moi, je suis assez,
tout simplement.
On peut avoir un vin tout à fait buvable, mais qui est dans l'équilibre. Souvent, les vins qui soient dans la catégorie gouglou ou dans la catégorie vin de garde, c'est souvent leur manque d'équilibre qui pêche.
Bien sûr. Oui, la sensation d'alcool peut être un vrai frein au plaisir qu'on prend à boire des vins. Et là, on ne l'a pas du tout. Typiquement, on ne l'a pas du tout.
Et puis à l'inverse, le côté, cette mode, entre guillemets, aussi des vins glouglou. Après, enfin, moi, j'en fais parce que je fais 13 vins différents aujourd'hui. Donc, vu que c'est un peu compliqué dans ma vie. Mais ça va.
Tu as fait ce choix d'être compliqué.
Oui, c'est ça le problème. C'est peut-être faire une thérapie, d'ailleurs, à ce sujet.
Il s'amuse bien aussi dans
la cave. C'est ça. mais pour le vin le plus glouglou qui fait 12 degrés, ce qui est intéressant dans les vins glouglou, c'est avoir aussi du terroir derrière, quoi. Et c'est ça la complexité du vin glouglou, comme on dit, c'est que c'est bien, hein, d'avoir de la digestibilité, de la facilité et tout, mais il faut quand même quelque chose derrière aussi. Je dis ça, mais ce vin-là, en l'occurrence, il est quasiment transparent.
Sans faire de grande caricature, c'est plutôt à la vigne que ça se passe, le côté terroir.
Exactement, ouais.
C'est juste qu'on l'accompagne moins en chais, mais il faut être irréprochable, entre guillemets, à la vigne.
Excusez-moi, je voulais juste revenir sur les accords, oui. Parce que je viens de terminer ma bouchée et je voulais juste en parler. En fait, ce qui va aussi quand même assez bien, c'est que on a ces épices qui sont quand même présents, et puis en fait ce poisson il a quand même aussi un certain caractère, et c'est ce qui va exactement, le côté fumé avec un petit peu épicé, et c'est ce qui va faire en fait vraiment le bon accord avec les terres jaunes, où on a ces épices, hein, qui sont vraiment de cette roche de Trias aussi, hein, parce que c'est quand même ce qui vient de là. C'est très intéressant.
On parle du fruit et effectivement il y a beaucoup plus que le fruit dans le vin. Il y a les épices dont tu parlais, et puis bon, on est quand même sur des terroirs de garrigue, on en parle, mais la garrigue elle est dans le vin, hein. Il n'y a pas de secret, on la retrouve dans le vin.
En matière d'expérience, vous poussez même encore plus loin parce que vous proposez des dégustations sous hypnose à la ferme Saint-Martin. Raconte-nous un peu ce concept.
Alors, on ne se réveille pas du tout en tant que Sicile impératrice dans un tonneau. Hein.
En fait, on ne plonge pas des aiguilles dans le bras.
Non, vous ne réveillez pas avec un corset, en fait. Non, on est en pleine conscience.
L'idée, c'est d'éveiller les sens.
Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est simplement qu'on est vraiment à l'écoute. On est à l'écoute aussi, finalement, de ses sensations, de ses propres sensations. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que simplement après, donc il y a quelqu'un qui est là et qui hypnotise, bien sûr, et simplement en fait qui n'hypnotise pas, mais je veux dire qui emmène les gens quelque part.
Mais en condition.
Oui, tout à fait. Donc en fait, on fait ça sur deux vins. Donc ça dure à peu près une heure parce que sinon après c'est trop et on lâche. Donc on a un blanc de macération. Donc c'est vrai que dans la vallée du Rhône, on n'en a pas des masses, donc c'est assez atypique. Et puis ensuite on a
un vin orange, quoi, ou
Alors, ça ne se rapproche pas non plus des vins oranges, parce qu'on a entre 10-12 jours de macération, donc on n'est pas non plus là-dedans, on reste quand même avec une belle fraîcheur, etc. Mais bon, voilà, il y a quand même ces 10-12 jours de macération, 9 mois de tonneau, 1 an de bouteille. Bon, voilà, ça fait quand même un vin qui a quand même vraiment quelque chose à dire en blanc. Et puis après, on continue en fait sur un rouge qui est la cuvée en fait du grand-père de Thomas et que Thomas continue à faire. Donc on est sur des grenaches centenaires. Et donc il y a quand même un certain caractère. Et puis surtout, on se rapproche un petit peu d'ici, justement. On est un peu dans la forêt. On a ce côté un peu de sol, de champignons, etc. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça fait un voyage. Et puis les gens, puisque la dégustation de toute façon est très personnelle, on a toujours en fait des sensations qui peuvent être. Bon, la première fois que je l'ai fait, par exemple, sur le blanc, j'ai eu l'impression d'être à l'intérieur de mes canaux de nez. Vous savez, comme ce dessin animé lorsqu'on était jeune qui s'appelait C'est la vie.
Il était une fois la vie.
Exactement, il était une fois la vie.
Je connais la chanson par cœur, mais je ne vais pas la faire là.
Et ben voilà, c'était exactement ça. J'avais l'impression d'être le petit personnage et d'être à l'intérieur. Et c'était assez, assez stupéfiant. Donc chacun vit quelque chose de différent.
Il a l'air fort quand même, le gars qui fait l'hypnose.
Ouais.
Ça développe une espèce d'hypersensibilité.
Oui, c'est exactement ça.
Totalement attentif au vin, oui. On est vraiment dans le vin. Mmh. Et c'est assez amusant parce que.
Non, mais c'est
le début de la dégustation de l'aveugle. En fait, c'est se déprendre de toutes nos images, de l'étiquette, de la couleur. Et voilà, en fait, il faut être absent à soi-même quelque part.
Et puis après, en fait, on regoute, ensuite on lâche tout, et puis chacun parle un peu de ce qui s'est passé, et on regoute les vins. Mais en fait, le fait d'avoir lâché, d'être en discussion, etc., on n'est plus en fait attentif. Et donc les gens, en fait, dégustent d'autres choses. C'est ça qui est sympa.
Formidable. Une des facettes des découvertes touristiques qu'on peut faire dans la région, donc à la ferme Saint-Martin chez vous. Vous n'êtes pas les seuls à faire des ateliers dégustation et de valoriser le no-tourisme. Il y a aussi un gîte au domaine, ou plusieurs peut-être. Voilà, donc c'est vraiment une région où on peut, si on aime le vin et si on aime les paysages magnifiques, venir passer quelques temps. On va passer à un deuxième vin et se tourner vers... Claude Chabron, président de Ronéa. On va changer d'univers, et tout en restant dans le même coin.
On reste dans le même coin, on change d'univers, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, Ronéa, ça peut paraître énorme. C'est Ronéa, en quelques chiffres, c'est 2900 hectares de vignobles. Mais n'oublions pas que c'est 388 vignerons. Donc c'est un regroupement de tout petits vignerons. La surface moyenne de chaque exploitation est inférieure à 10 hectares. C'est 7-8 hectares la moyenne. Donc effectivement, on est...
On n'est pas dans l'agro-industrie.
On n'est pas dans l'agro-industrie, l'un de là.
Ah, finalement, c'est plus petit que la ferme Saint-Martin.
Oui, c'est en moyenne, oui, c'est effectivement plus petit que la ferme Saint-Martin. Mais ça, c'est important, parce qu'effectivement, les gens pensent toujours grande cave, grand domaine, etc. Non, on est effectivement Ronéa. Les adhérents de Ronéa ont effectivement des petites parcelles. Et comme l'a bien dit Thomas tout à l'heure, ces parcelles, on est toujours au milieu de champs d'oliviers, de bois de pin, de garrigues, et ça c'est une richesse immense pour notre appellation. Et ça, on a vraiment voulu le garder. Il faut savoir qu'au moment où l'appellation a été créée, enfin, on a accédé à l'appellation Baume de Venise Rouge,
les vignes...
Non, c'est en 2005. En 2005, les vignerons eux-mêmes ont décidé de préserver l'intégralité de ce qui n'était pas vignoble, de ce qui n'était pas cultivé à l'époque, c'est-à-dire l'intégralité des surfaces boisées.
Ils ont ancré le fait que la vigne ne gagnerait pas de terrain.
On a ancré le fait que la vigne ne gagnerait pas de terrain, et même si quelqu'un arrivait à pouvoir déboiser, il ne bénéficierait pas de l'appellation Baume de Venise. Et ça, c'est important parce que c'est une préservation du paysage, qui est vraiment une partie forte du patrimoine.
Il me semble aussi que Ronéa Vignoble a un certain nombre d'initiatives pour faire en sorte que certaines vignes ne soient pas transformées en zone constructible. Est-ce que je me trompe? La SCIC, non?
Une SIC, oui. On a créé une SIC. Oui.
Non, une SCIC.
Une SCIC, oui.
Une SCIC, ou une SIC. Société coopérative d'intérêt collectif, voilà. C'est un fonds participatif qui permet effectivement d'acheter des parcelles qui appartiennent à des vieux coopérateurs qui n'ont pas de suite, qui n'ont pas de descendance, et donc de les acheter et de les garder auprès de la coopérative et de les faire exploiter par de jeunes vignerons, ce qui leur permet éventuellement de, c'est un petit peu un pied à l'étrier pour démarrer s'ils ont une surface trop petite. Voilà, donc c'est une façon de les aider et de préserver effectivement le patrimoine.
On va parler de l'histoire de Ronéa, parce que c'est un regroupement de caves. D'abord, juste un petit détour par ton parcours personnel. Toi, tu es né ici, dans une famille de vignerons, mais tu n'as pas du tout fait ta carrière à Bonne-de-Venise.
Non, moi, je suis né ici, effectivement. Mon père était vigneron. Il était un des premiers fondateurs de la cave.
Déjà coopérateur.
Il a été administrateur de la cave pendant 40 ans. J'ai pris la suite d'après. Moi, je suis né ici. Je suis ingénieur de formation. J'ai passé 25 premières années de ma vie dans le monde entier à construire des aéroports, pas à les construire d'ailleurs, plutôt à les...
Oui, ingénieur, mais c'est centralien en fait.
À les dessiner, à superviser la construction.
Grands travaux, infrastructures.
J'ai commencé à Barennes à l'époque, mais là je faisais mon service militaire comme coopérant et j'étais attaché culturel et technique à l'ambassade de France. Puis ensuite j'ai vécu en Libye pendant 2 ans, après j'ai beaucoup travaillé en Irak, puis après au Moyen-Orient, puis en Chine, puis aux États-Unis, puis etc. etc., etc. Voilà.
Donc retour à Bonne-de-Venise à la cinquantaine.
Et puis à la cinquantaine, c'est la crise de la cinquantaine, retour à Bonne-de-Venise pour lever le pied et retrouver ici. Et moi je dis toujours, je suis heureux, je suis sur mon tracteur, j'ai en face de moi les dentelles de Montmirail et dans la tête je suis à Babylone, au Machu Picchu, ou je sais pas où, à Bouroudoudour, où vous voulez, enfin bon, à peu près. Voilà.
Ronéa, au départ, c'est donc la fusion de deux caves, celle de Baume-de-Venise et celle de Vaqueras.
Tout à fait. Moi, au départ, je suis donc président de la cave de Baume-de-Venise. On a procédé à la fusion des deux caves, donc de Baume-de-Venise et de Vaqueras. C'était en 2015. Alors, 2015, c'était une union qui s'est transformée en fusion en 2017, donc très rapidement. Et ensuite, en 2019... Cette cave unique de Baume et Vaqueras s'est unie avec la cave de Rasto et la cave de Visan pour créer le groupe Ronéa. Voilà.
Qu'est-ce qui impose ce type de fusion dont on sait qu'elles arrivent par ailleurs, hein, y a pas mal de caves. Historiquement, il y avait une cave coopérative par petit village. C'est encore pas mal le cas d'ailleurs dans la région.
Pratiquement le cas partout encore ici. On est encore très un village, une cave, oui, effectivement.
Et qu'est-ce qui fait, quels sont les avantages, enfin les raisons pour lesquelles? C'est une nécessité, c'est une opportunité? Comment tu décrirais ça?
Je crois que c'est les deux. Je crois que ça sera une nécessité, je pense. Et je pense que c'était une opportunité. C'est souvent un alignement de planètes. Tu sais, un rapprochement se fait jamais, ou alors se fait mal. S'il se fait par la contrainte, il y a toujours un alignement de planète qui fait que ça peut se faire à un certain moment. Bon, là, il se trouve qu'à un certain moment, Baume et Vaqueras étaient... Le directeur général de la cave de Vaqueras était ingénieur de formation aussi. Ça joue, hein, tout ça. Et puis, le président de Vaqueras avait également envie de faire quelque chose en disant, moi, je n'ai pas envie de finir en pensant qu'à moi, je veux penser à mes enfants, qu'est-ce qu'on va devenir demain, etc. Et donc ça s'est fait très naturellement. Et puis le rapprochement avec Rasto s'est fait également pareil. Le but, en fait, c'est simple, c'est de pouvoir se donner plus de moyens, aussi bien en amont qu'en aval. Alors en aval, effectivement, c'est toute la partie commercialisation, ça permet d'aller sur l'international. On sait très bien tous que l'approche du marché international est extrêmement coûteuse. Donc ça permet d'aller chercher des marchés où on n'y serait pas allé, où on ne serait pas allé tout seul. Mais surtout, ça permet en amont de donner également plus de moyens, de travailler sur encore plus qu'on le faisait auparavant, sur des sélections de terroirs. On parlait tout à l'heure des terres blanches, des terres jaunes, des terres grises. La première vinification de terres jaunes de la cave, elle remonte de la cave de Baume, elle remonte à 1997. Donc ça fait maintenant 25 ans. Et donc depuis cette époque-là, on a toujours sélectionné des parcelles dans ces terres jaunes qui appartiennent à plusieurs vignerons. Par définition, ils sont tous des petites parcelles. Et puis on va dire à tous ces vignerons, écoutez, voilà, à tel moment, on fait une surveillance, voilà, à ce jour-là, on a les grenages vont arriver à maturité, tous, ce jour-là, vous allez cueillir ces parcelles-là, vous allez rapporter, on va faire une cuve de grenage. Auparavant, on aura fait une cuve de Syrah, pareil, sur le même principe. Ensuite, on va assembler. Et ça, ça permet de le faire. On l'a fait sur Vaqueras, on l'a fait sur Rasto. Cette année, on est en train de le faire sur Visan. Donc, et ça, ça suppose des moyens quand même. Ça suppose des moyens techniques, ça suppose des moyens humains de suivi. Et c'est un des avantages de ce rapprochement.
Comment dire, les coopérateurs, quel est le profil parce qu'on a une image du vigneron qui fait son vin et qui fait le choix. Certains l'ont fait très tôt, comme ton grand-père, Thomas. D'autres se voient plus comme des viticulteurs que comme des vignerons. Ouais, ouais. On fait encore cette distinction entre les deux. Est-ce que le vigneron se sent au sein d'une coopérative? Qu'est-ce que fait la coopérative pour le garder, celui qui a peut-être l'ambition de faire ses propres vins? Est-ce qu'il y a une action de ce côté-là, ou est-ce que c'est deux profils finalement d'agriculteurs qui vont être de toute façon différents?
Non, pas forcément. On a d'ailleurs des vignerons qui vinifient une partie de leur production, ouais, et qui apportent une partie de leur production à la cave.
Un schéma qui est très fréquent également.
C'est un schéma assez fréquent. Après, effectivement, bon, il y a toujours dans la tête de quelqu'un l'image du vigneron, enfin du viticulteur, qui travaille ses vignes, qui cueille son raisin et qui le décharge à la cave et qui ne veut pas savoir ce qui se passe. Bon, ça, c'est l'image, malheureusement, qui reste ancrée dans la tête d'un certain nombre de gens. Non, nos vignerons, on parlait tout à l'heure, Thomas parlait de séances d'assemblage. Ben, effectivement, nos vignerons, on les fait venir, on les invite. Quand les vins, les cuvées sont à peu près terminées, on les invite et on leur dit venez et on va faire des séances d'assemblage. Et donc on fait une séance d'assemblage et on fait des essais. Chacun donne son sentiment sur tel ou tel assemblage, c'est mieux, pourquoi c'est pas mieux, pourquoi ça serait mieux avec un petit peu plus de grenache, de syrah, de trucs, etc. Et voilà. Et ça, c'est une façon de les faire participer. On les fait participer, ils font de l'œnotourisme. Effectivement, quand vous venez, si vous venez à la cave, vous demandez les visiter les vignobles. Moi, j'ai mon fils hier qui a fait visiter, il y avait des Américains qui étaient de passage, c'est lui qui les a pris, qui était les emmener faire un tour dans le vignoble. Si vous avez... voilà, donc il y a tout cet accompagnement. On les envoie faire des salons. Nos vignerons vont faire des salons. Et ça, c'est important, parce que ça leur permet, comme un vigneron indépendant, de ressentir ce qu'attend, ce qu'apprécie le consommateur dans ses vins, ce qu'attend le consommateur de ses vins, etc. Et ça, c'est important, parce que le vigneron qui est loin, qui coupe ses raisins et qui les apporte à la cave, ça n'a pas d'intérêt pour moi.
Donc c'est ça, la cave nouvelle génération.
C'est ça, c'est la coopérative nouvelle génération. C'est ni plus ni moins que de remettre le vigneron, enfin, le viticulteur ou le vigneron, au centre de la cave. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit un simple apporteur. C'est pas un fournisseur, c'est un acteur, ça doit devenir un acteur de la cave. Et ça, c'est hyper important. Et ça marche surtout chez les jeunes vignerons, chez les jeunes adhérents.
Et là, du coup, dans nos verres, on a...
Terroir d'Arenton.
Terroir d'Arenton. Ouais.
Alors, qu'est-ce que c'est les cuvées d'Arenton, les terroirs d'Arenton?
Alors, d'Arenton, c'est simplement...
c'est un nom de famille, je crois, au départ.
D'Arenton, au départ, c'est un acronyme. On a pris tous les premières lettres des fondateurs de la cave et on a mis tout ça dans un shaker, ça fait d'Arenton. Voilà.
C'est quoi l'objectif ou l'ambition de ces cuvées?
Non, d'Arenton est une gamme destinée à la grande distribution. En fait, vous avez deux gammes principales. Vous avez la gamme Ronea, qui est la gamme qui est destinée plus à, je dirais, au CHR et aux particuliers. Et vous avez la gamme tout ce qui est restaurant. Et vous avez la gamme Terroir d'Arenton, qui elle est destinée principalement à la grande distribution. Avec un premier succès, c'est la première fois qu'on a réussi à introduire la même marque dans l'ensemble des enseignes de grande distribution. Vous voyez que la tendance, c'est plutôt Auchan va vouloir sa gamme, Leclerc va vouloir sa gamme, etc. Et on a réussi à imposer, de par la qualité, la démarche, etc., avoir la même marque sur l'ensemble des réseaux. Et ça, c'est important.
Donc là, on est sur un assemblage un peu assez classique, je dirais GSM, comment
on
dit ?
Là, on est
Grenache Syrah Mourvèdre.
On est sur un assemblage Grenache Syrah Mourvèdre. On doit avoir à peu près 5% de Mourvèdre. Donc ça, c'est vraiment l'assemblage typique du cru Baume de Venise, ou de la cave tout au moins.
Au sein de la cave, justement, pour Est-ce que vous encouragez les démarches sur le bio, puisque bon, c'était un des sujets qu'on a évoqué en introduction, mais est-ce qu'il y a des moyens de créer des cuvées spécifiques bio? Vous individualisez un petit peu le travail de certains viticulteurs? Comment ça se passe?
Tout à fait. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure des sélections parcellaires, je dirais, qui permettent de créer alors la cuvée, le trias, ce sont les terres jaunes, la cuvée, la baume, ce sont les terres grises, la cuvée Bel Air, ce sont les terres blanches. Ça, je parle de l'appellation Baume de Venise. Mais on crée également on vinifie également séparément les raisins de certains vignerons qu'on va commercialiser en tant que domaine. La démarche bio, moi par exemple, je suis depuis 2008, je suis en culture biologique pour tout ce qui est muscat. Et ce muscat, il est vinifié et commercialisé sous le nom d'un domaine du Paparotier, qui est un nom de domaine, c'est uniquement mon muscat. Voilà.
D'accord.
Et ça, c'est une démarche qui est assez fréquente. On le fait pour plusieurs vignerons. Sur l'ensemble du groupe, on le fait pour beaucoup. En ce qui concerne les démarches bio, aujourd'hui, on vient de lancer un gros programme de sensibilisation à l'agriculture biologique, avec pour but, en 2030, d'avoir plus de 50% de la production en bio. Aujourd'hui, avec les gens qui se sont engagés, qui sont aujourd'hui en deuxième année de conversion, on approche déjà les 20%.
D'accord.
Vous êtes déjà en bio à la ferme Saint-Martin?
Oui, on est certifié depuis 1998. Effectivement, mon grand-père était en bio au début, et puis après, mon père a fait quelques années en conventionnel, et puis il s'est rendu compte qu'on pouvait avoir un certain équilibre un peu plus intéressant avec l'agriculture biologique. Et c'est vrai que c'est important de convaincre un maximum de personnes autour de nous, de convaincre les consommateurs de consommer bio, de convaincre les agriculteurs de produire, et d'avoir différentes organisations d'échelles différentes, évidemment, mais qui tendent à produire des produits bio, mais qui restent accessibles à tous. Et c'est un peu aussi le défi de différentes entreprises.
Ça ne s'invente pas, un cycliste passe.
Donc, un cycliste passe bonjour, parmi nous, je crois qu'il a soif. Je crois qu'il a très soif.
Il a peut-être envie d'un petit verre de vin. Ah oui, il vient de descendre et là, il attaque, mais aucune difficulté. D'accord.
Oui, mais je crois que le bio est important. Nous, tout ce qui n'est pas produit en bio est produit pour la majeure partie en HVE, haute valeur environnementale, ou de toute façon en agriculture raisonnée. Je crois qu'aujourd'hui, le bio est un des domaines, est une des solutions. Je crois qu'il n'y a pas que le bio. Je crois qu'il y a d'autres approches de véritable agriculture raisonnée. Je dis, bon, le label lui-même ne veut pas dire grand-chose, mais je crois qu'il y a vraiment d'autres possibilités. Il y a une volonté partagée. Aujourd'hui, moi, je connais énormément de vignerons ici qui n'utilisent plus de désherbants. Ils sont pas pour autant certifiés bio. Ils n'utilisent plus de désherbants. Ils utilisent beaucoup de cuivre et de sous-boufre, avec éventuellement peut-être un traitement. Mais je crois qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits, même si tout le monde n'est pas certifié bio.
C'est très encourageant parce que ça montre qu'il y a une certaine prise de conscience et il est temps d'agir tous ensemble, vite et fort et beaucoup.
On a dans les assiettes un deuxième accord.
Oui,
c'est écrit.
On avait... Donc là, c'était effectivement, pardon, le figuier de macro, laqué à l'asiatique et cacahuète grillée.
Avec ce terroir bon. D'Aronton, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce vin? Moi, j'aime bien faire parler les vignerons des vins des autres. Ça les met mal à l'aise, mais...
Non, pas du tout. Y a aucun...
Tant mieux.
Oui. Moi, j'ai trouvé en fait que on était vraiment sur des fruits rouges bien mûris aussi. Je trouvais que c'était assez gourmand. Il y a quand même aussi pas mal de fraîcheur, mais finalement qu'on retrouve vraiment dans le coin aussi. Hein.
On peut dire qu'on peut éliminer direct le fait de d'imaginer les vins rouges de cette région comme des vins lourds et puissants.
Ah oui,
là, les deux vins qu'on goûte aujourd'hui, on est dans la fluidité, la légèreté, la fraîcheur.
Tout à fait. Et puis, je trouve que c'est pareil, il y a pas mal d'épices, mais je trouve qu'il y a quand même de la réglisse aussi qui est présente. Et ce qu'on a mangé, c'était très très bon. C'était vraiment délicieux. La petite chips aussi, c'était très bon. Et du coup, il y a des tanins qui sont présents, qui sont quand même assez soyeux. Et c'est vrai que du coup, avec cette petite chips là d'aubergine, et qu'est-ce qu'on avait dessus ?
Le maquereau laqué.
Le caviar d'aubergine. En fait, je trouvais que c'était intéressant parce que du coup, ça a calmé un petit peu les tanins présents qui n'étaient pas du tout gênants. Mais que ça faisait quand même une jolie structure et que ça donnait assez d'amplitude.
Enfin, ce qu'on appréciait en tout cas à l'aveugle, hein, et un peu ce qui fait qu'on l'a choisi, c'est ce côté effectivement très équilibré entre le côté fruité, le côté un peu épicé, de la fraîcheur, et voilà ce qu'on n'attend pas franchement spontanément d'une. Enfin, quand on a une image d'Épinal d'une cave coopérative du Sud, c'est pas du tout spontanément, je pense, que ce qu'on a en tête.
C'est vraiment une des caractéristiques principales des vins de Baume de Venise, alors lié en grande partie à l'altitude, comme disait Thomas tout à l'heure, c'est la finesse, la fraîcheur et la souplesse. Enfin, on est sur des choses. On vient à nouveau de constater qu'on est sur du maquereau, qui est quand même un poisson qui est assez marqué, hein, et ça passe très bien, et ça va très bien avec.
Pas forcément spontanément du gibier, comme on dit toujours.
Non, pas du tout.
C'est ça, je pense que c'est important aussi de lâcher un peu les clichés. Par exemple, on a pas mal ce cliché du blanc avec le poisson et du rouge avec le fromage. Alors que c'est faux. Je trouve qu'un blanc avec un fromage de chèvre, c'est ce qu'il y a de mieux. Je trouve que c'est presque une hérésie, presque un péché, que de mettre du rouge avec un fromage.
On a souvent défendu ici le blanc avec le fromage à ta gauche, fervent défenseur de ce concept.
Ce n'est pas une hérésie de boire un rouge du sud avec un maquereau et un poisson. Quand il y a un peu d'épices, quand il y a un peu de fumée, quand il y a des choses qui se font écho et en fait qui créent le lien. Je pense que c'est effectivement le fumée qui fait le fumée, les épices qui lient les deux vins. Et puis surtout, il n'y a pas trop d'élevage. Enfin, moi, je ne sais pas si le vin a été élevé en fût ou pas, mais on sent pas du tout l'élevage. Enfin, je pense que c'est en cuve inerte. Et ça, je pense que ça favorise sa légèreté.
Notre sélection elle traduit aussi les conditions de notre propre dégustation à l'aveugle il y a quelques semaines. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans une logique où on était sur un dîner avec de la viande qui avait besoin d'être accompagné de vin avec une structure tannique importante.
On avait
des choses à grignoter, mais on a privilégié au moment de la dégustation, en tout cas ce qui nous a parlé, c'était des vins qui étaient accessible assez rapidement sur le fruit, avec une structure tannique pas trop marquée. Et voilà, on le retraduit aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, il y a des vins, et on l'a remarqué lors de notre dégustation à ce moment-là, des vins qui ne nous ont pas parlé lors de la dégustation, qu'on a laissé de côté pendant 24 heures, 48 heures, et qu'on a eu le plaisir de regoûter après, et qui était beaucoup plus séduisant 24 à 48 heures après, et parce que ben justement l'oxygénation avait fait son travail, et qui aurait bien accompagné des plats, justement, on parle de repas plus structurés. Donc voilà, je remets un peu les choses dans leur contexte. On est vraiment là dans une sélection, et c'est bien, parce que ça montre qu'il y a une diversité des vins sur Baume de Venise, qu'on n'est pas obligé d'aller chercher des vins de gibier. Enfin, on ne va pas trouver que des vins de gibier. Il y en a, et c'est ça que je veux dire là maintenant. C'est on ne fait de la description que de vins faciles à boire, accessibles. Mais il y a bien entendu aussi des vins plus structurés qui appellent le sanglier. Enfin,
ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de structure, hein, parce que ce vin-là.
Je dis vraiment le côté.
Des deux.
Voilà, il n'y a pas de jugement de valeur du tout, c'est qu'il y a deux profils de vin, ils existent, que spontanément, le client lambda, il va penser que ça va plutôt être ces vins puissants, forts, etc. Et que ben non, il y a la place pour autre chose, et il faut venir le goûter aussi.
Ouais. Pour un concept riche à Romain, c'est presque des vins d'apéro. Ces deux rouges-là qu'on a bu.
Cette fraîcheur, c'est ça, cette digestibilité, c'est ça qui donne en fait le côté où presque on n'a pas besoin de l'accompagner en fait, juste comme ça.
Enfin, moi j'ai pas honte de sortir des magnums de terre jaune, des fois en soirée ou quoi. C'est effectivement, c'est avec une digestibilité, une ouverture, voilà. Et puis c'est ça le vin. Le vin, c'est aussi le côté copain, le côté festif, le côté échange, le côté vrai, le partage. Et après, le défi, c'est de faire passer dans son vin, c'est de faire passer un terroir, c'est de faire passer des émotions, c'est de faire passer un millésime, de faire passer, on parlait de la garrigue autour, voilà, d'arriver à transcrire ça, d'arriver à transcrire la minéralité des profondeurs et de ce qui entoure la vigne via le vin. En fait, on est plus ou moins des traducteurs d'environnement, de l'environnement qu'on a la chance d'avoir via le vin, quoi. Et pour ça, on a beaucoup de boulot. Voilà. Et en plus, en Baume de Venise, on a une diversité au niveau des rouges, mais on a aussi une diversité au niveau des blancs et des muscats qu'on est en train de goûter.
Des invités parfaits qui font des transitions.
Que des blancs en muscat, en plus.
Exactement. Et en plus, on a des rouges et des rosés en muscat. Alors là, vous pouvez venir passer une semaine, quoi. Il n'y a pas de problème.
Mais indépendamment des producteurs, bon, je crois que les deux rouges qui ont été sélectionnés sont vraiment quand même... vraiment des caractéristiques de l'appellation Baume de Venise. Je pense qu'il représente vraiment 90% des rouges
de vin, du profil de vin qui est fait ici.
Tout à fait.
Merci pour la transition, Thomas.
Avec plaisir.
On arrive sur l'autre facette de cette appellation, qui est la plus ancienne, je le rappelle, 1943. Là, j'espère pas me tromper sur la date.
Non, je était même...
Jean-Paul, on reste sur le chemin, qui nous a fait la visite, président de l'ODG, nous a dit, non, c'est 45, rétroactif à 43.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Mais c'est pas pendant la guerre qu'on a donné.
Et juste pour faire raccord avec le jubilé de la reine, il a été servi au sacrement de la reine Elisabeth II. Au couronnement, ouais, en 42, c'est-à-dire juste avant l'obtention
de l'AOC. Elle n'a pas pu se libérer.
On se demandait si c'était Elisabeth II qui aurait aidé à avoir l'AOC, puisque c'était un an avant.
Alors, si Jean-Paul parle, il faut lui donner un micro. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour. Oui, on peut imaginer aussi, vu la carrière qu'a connue la reine, c'est peut-être grâce au muscat qu'elle a pu vivre aussi longtemps.
Hein. Ah, bien vu.
Donc voilà, si elle en a consommé toute sa vie comme
c'est
ça.
C'est une évidence.
On n'a pas pu se libérer, on souhaitait la voir et...
Ouais, oui, enfin là, elle a eu trois jours quand même un peu chargés.
Intense, ouais, c'était
intense. Elle récupère
un peu. Elle aurait pu se reposer un peu, tu vois. Venir faire une dégustation sous hypnose.
Voilà. Peut-être profiter des transats qui nous appellent juste à côté de nous. Voilà.
Alors, le muscat, Patrice, c'est une longue histoire aussi, ça.
Le muscat, bah oui, on a dit que c'était... Déjà, Pline en parlait au premier siècle de notre ère. Donc
c'est le vin historique d'ici, en fait.
Exactement.
C'était le vin des abeilles, pour Pline.
Le vin des abeilles, sur le côté mielé, c'est ça ou...
ouais, non, c'était le vin des abeilles, je ne sais pas pourquoi.
D'accord, ok. Bon. Le muscat qui est donc le AOC depuis 43, donc muscat petit grain, après rouge rosé ou blanc. Là, on a un blanc de chez Xavier Vignon, qui a pas pu nous rejoindre. Donc, juste pour rappel, le muscat de Baume de Venise est une AOC, c'est un vin doux naturel. Donc, la fermentation est arrêtée par mutage. Pour rappel, mutage, c'est-à-dire rendre le vin muet, hein, ça veut pas dire le transformer, puisqu'on arrête la fermentation. Et on rajoute 10% d'alcool pur pour arrêter la fermentation et le transformer en vin doux naturel. Et je crois que le minimum pour l'AOC, c'est 110 grammes de sucre résiduel. Et là, en tout cas, c'est peut-être ça qu'on a apprécié. En tout cas, on a eu aussi 8 muscats hein, de mémoire à la dégustation. Et c'est que là, on est vraiment à la limite basse, donc avec assez peu de sucrosité. Et c'est ce qu'on a aimé dans ce muscat. Alors le muscat petit grain est connu pour ses notes muscatées. Et donc muscaté, ça veut dire qu'en fait, c'est riche en terpènes. Les terpènes, c'est géraniol, linaol, etc. par exemple, qu'on retrouve dans la fleur d'oranger, qu'on retrouve dans la rose, qu'on retrouve dans la lavande. Donc la caractéristique aromatique du muscat, c'est pour ça qu'en général on le fait macération à froid pour garder sa dimension aromatique, notamment florale. C'est pour conserver donc ses terpènes et donc ses saveurs très 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 florales on a retrouvé dans le muscat Baume de Venise de chez Xavier Vignon.
Quel bonheur de finir un repas. Parce que c'est plus ou moins un repas, on a grignoté des petites choses avec un vin doux. Donc, voilà. On répète toujours.
Donc le muscat qu'on trouve dans plusieurs régions de France quand même, hein, puisque ici c'est la seule appellation qui cultive le muscat, mais on en trouve aussi évidemment en Alsace,
dans le Roussillon.
Le petit grain en Corse.
Et en Corse. Je sais que tu affectionnes particulièrement les muscats du Cap Corse.
Ouais, beaucoup, parce que je trouve que les muscats du Cap Corse ont justement naturellement peu de sucrosité et que les arômes sont d'autant plus vivants.
Parlons de ce muscat. Quelque chose qui m'a frappé, qu'on retrouve sur le site de Ronea et qu'on trouve aussi d'ailleurs sur le site de l'appellation, c'est d'associer et de dynamiser le muscat, de l'associer à la mixologie. Participer à des ateliers de mixologie, donc on parle de l'art des cocktails, qui est quelque chose qui est relativement à la mode ces dernières années. Est-ce que c'est une opportunité pour le muscat ? Est-ce que ce n'est pas un peu dommage de mettre du muscat dans d'autres choses ? Je mets les pieds dans le plat, hein, mais d'où vient cette idée que le muscat, en fait, pourrait aujourd'hui être un vin qu'on associe à des cocktails ?
Je crois que c'est pas une fin en soi, c'est une opportunité, ce sont des essais. On arrive à faire des choses intéressantes. C'est assez difficile à faire, parce que le muscat, tout est en finesse, on a énormément d'arômes, mais ce sont des arômes, c'est très subtil, je veux dire.
Très évanescent.
Ouais. Très évanescent, très subtil. Et donc, il faut être très attentif quand on fait un assemblage, parce qu'effectivement, avec très peu de choses, on va couvrir complètement le muscat qui va disparaître. Donc, je crois que c'est une expérience assez intéressante. On a fait beaucoup d'ateliers de mixologie. On est arrivé à des choses très très sympas. Après, c'est pas la mixologie qui va impacter les ventes de muscat et qui va devenir la finalité, la fin en soi du muscat, je crois.
Merci de nous rassurer sur ce point.
Voilà. Mais c'est une expérience qui est intéressante et qui est toujours intéressante.
Le muscat donc, se trouve plutôt sur la commune de Baume-de-Venise et la commune d'Aubignan. Hein,
Aubignan. Pour 99.
Voilà. Et donc plutôt sur le piémont et les débuts, les bas des dentelles au sud, parce qu'il se prélasse plutôt, enfin il s'épanouit plutôt, pardon pour le temps.
Oui.
Non, c'est moi qui me prélasse, c'est le muscat qui s'épanouit. Sur les safres, hein, donc les sables, c'est là où il a sa meilleure expression.
Ouais, oui, sont des
safres du Miocène.
Safres du Miocène qui sont des. C'est en fait, c'est un grès mal consolidé qui va s'éroder avec la pluie et le vent, qui va donner donc un terroir. Forcément, c'est une espèce de sable argileux. Ça va chauffer énormément. Ça va restituer la chaleur la nuit. Donc, on va arriver à des concentrations de sucre extrêmement importantes. Et c'est avec des rendements très faibles, parce qu'on est des sols très pauvres.
Moins de 30 hecto.
Voilà. Et on va arriver à une espèce de finesse aromatique. C'est vraiment le terroir de prédilection du muscat.
Oui, parce que le muscat est un cépage qui a besoin de beaucoup de chaleur et est plutôt tardif. Donc ces terroirs-là renvoient beaucoup la chaleur de manière optimale. Et effectivement, le muscat de Baume de Venise, c'est Saf qui lui donne cette finesse. Parce que c'est vraiment l'image du muscat de Frontignan, etc. C'est quand même. Je ressens, on dirait du mal du muscat de Frontignan, mais du sud-ouest de manière générale, c'est souvent très sucré et pas forcément dans la subtilité.
Oui, après, une des grandes différences aussi, c'est que c'est un petit peu comme Saint-Jean. Avec Saint-Jean en Minervois, le muscat de Baume de Venise est issu par décret de 100% du muscat petit grain. Et on sait très bien que le muscat petit grain est. Excusez-moi l'expression, très chiant à cultiver. Si on ne fait rien, ça fait un buisson, ça ne fait pas une vigne, ça fait un buisson, ça pousse dans tous les sens. Il faut passer entre 2-3 fois pour débourgeonner, sinon ça pousse partout. Et en même temps, c'est totalement incomparable en termes de finesse et de richesse aromatique. Je veux dire, c'est vraiment, vous croquez un grain de muscat, c'est extraordinaire. Je veux dire, vous y retrouvez. Alors le litchi, parce que le litchi est toujours présent sur le muscat petit grain, mais vous retrouvez alors soit côté très floral, soit tous les fruits exotiques avec l'ananas, tout ce que
vous pouvez. Oui, il y a une variété aromatique qui est extrême, mais toujours dans la délicatesse. Voilà. Quoi.
Et toujours la délicatesse. Après, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure pour les rouges, c'est que sur un terroir d'altitude, ce qui est pas très courant pour les muscats. Les muscats, on les trouve dans le Cap Corse, mais on les trouve à Frontignan. Frontignan, il n'y a pas d'altitude. Hein, je veux dire, ici, le muscat, il est quand même entre 100 et 200 mètres d'altitude. Et ça fait toute la différence.
Oui, il y a une maturité phénolique supérieure.
Voilà, et puis cette petite fraîcheur que l'on retrouve dans le muscat de Baume de Venise, qu'on ne retrouve pas systématiquement.
Ce vin de Xavier Vignon, qu'est-ce que vous pouvez en dire, messieurs, madame?
Bah, en fait, voilà, on le déguste, excuse-nous.
Non, non, mais enfin, on trouve, encore une fois, il y a la sucrosité, mais qui est pas trop présente. Il y a, moi, je trouve beaucoup de notes, effectivement, florales.
Bon équilibre, pas d'alcool. Non,
ça reste léger quand même. Hein,
ça reste très léger, hein. Parce que bon, mutage, tu parlais tout à l'heure du mutage. Le mutage est une opération très délicate. Hein, c'est quelque chose de très, très, très.
Il faut le faire au bon moment.
Il faut le faire au bon moment.
Ça paraît simple, comme je l'ai dit, mais effectivement, c'est plus compliqué.
Il faut le faire au bon moment. C'est, vous savez que c'est comme ça que le muscat de Baume de Venise était avant à 120 grammes par litre. Et en fait, c'est notre caviste, il y a longtemps, je vous parle de 40 ans en arrière, a oublié de se réveiller une nuit, parce que ça se fait à quelques heures près. Hein, c'est vraiment très...
C'est lui qui a inventé la tarte tatin ou...
C'est pas lui qui a inventé la tarte tatin, mais à l'époque, c'était beaucoup plus simple. Et le lendemain matin, il n'y avait plus que 110 grammes. Et donc, aujourd'hui, ça poserait un problème monumental. À l'époque, les gens de l'INAO sont venus, ont goûté, ont dit bah, finalement, c'est plutôt meilleur. Et donc, on est passé à 110 grammes. Bon, aujourd'hui, il faudrait 25 ans pour le faire. Bon, hein. À l'époque, ça a dû se faire en 3 jours.
C'est un peu le problème en général.
Oui, bien sûr.
Allez, petit minute INAO.
En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'avec le foie gras, ça se mariait plutôt bien. Alors, moi, je mange pas de foie gras. Ça faisait des années que j'en avais pas mangé. Mais là, pour me prêter au jeu, pour aller jusqu'au bout, je l'ai fait. Et en fait, c'est vrai que ça patine vachement. C'est très rond. Je trouvais que du coup, c'était vraiment sympa.
Le gras et le sucre se répondent.
Ah, c'est un bon combo, ça.
Oui, mais justement, moi, vin liquoreux sur foie gras, c'est pas trop mon... ma tasse de thé, et là pour le coup ça passe très très bien parce qu'encore une fois la sucrosité n'est pas trop présente.
Oui, c'est vraiment l'aromatique qui passe en premier. Et avec le yuzu aussi, je pense qu'il y a ce rappel, ce côté très très agrume et ces fruits exotiques, ça fait vraiment un panier de fruits magnifique.
Pour être précis, ce que l'Auberge Saint-Roch nous a concocté, c'est un foie gras fève de tonka au confit de yuzu. Voilà. Et c'est effectivement très bon. Sur le côté litchi, je me rappelle très bien que dans la dégustation, certains étaient très prononcés. Moi, je ne suis pas très fan du goût de litchi. J'ai un problème avec les Gewürztraminer en Alsace souvent parce que ça me paraît trop présent. Et pour le coup, celui-là, voilà, c'est présent, c'est fin, c'est léger, c'est juste suggéré. Et c'est vrai que ces vins doux, ils ont des palettes aromatiques incroyables.
Ils ont une certaine complexité, un certain volume, tout en gardant de la fraîcheur, de la finesse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours envie de boire de la facilité. On parlait de facilité, de digestibilité. On veut toujours des choses faciles, vite, rapides, maintenant, tout de suite. Et en fait, on a peut-être, quelquefois, on passe à côté de certaines choses, à côté de certaines complexités. Et je pense que le muscat, c'est vraiment, ça représente beaucoup cette époque et ce train de vie qu'on a, puisqu'on veut toujours des choses faciles à boire de suite, oui, rapides, voilà. Alors que là, on a quelque chose de détendu, d'ouvert, quelque chose qui pose, qui est à la fois effrayé mais complexe, qu'on peut passer sur beaucoup de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir intérêt à revenir à certaines complexités. Comme ça, ça me fait penser un peu au slow food, quoi. Ce verre de vin, comme ça, c'est un peu un temps d'arrêt, comme ça. Et je pense qu'on a besoin de temps d'arrêt en général. Et c'est pour ça que ça peut être très très intéressant. Ce style de vin est très intéressant pour ça, quoi. Je trouve.
Il faut prendre le temps de le déguster.
Voilà, c'est ça.
Prendre le temps. Et on parle toujours de muscat à l'apéritif. On parle toujours de muscat pendant le repas, etc. Moi, je trouve que devant la cheminée, en fin de repas le soir, tu sirotes un petit muscat.
Les fameux vins de réflexion, c'est ça ?
Oui,
les fameux vins de méditation, pardon.
Tout à fait.
Est-ce que c'est des vins d'hypnose ?
Peut-être.
J'avais envie d'en parler.
Ça pourrait l'être énormément. Non, ça pourrait l'être. Sophie. Ça pourrait l'être énormément.
Oui, mais parce que non, pour revenir sur le sujet, c'est juste un moment qu'on prend pour soi, pour un moment où on écoute, et c'est ça en fait.
On s'écoute soi-même.
Ce que je crains juste sur le muscat, si je file la métaphore, j'ai peur de me retrouver dans la pub Carte d'Or où tu rentres dans un frigo où là il y a des fruits exotiques à gauche, des litchis à droite. Voilà, mais peut-être que ce sera plus le frigo qu'il est une fois la vie.
Moi, je me pose une question en dégustant ce vin parce qu'il y a quelques semaines, on était à Rivesaltes, justement, et je suis pas fan, moi, du muscat à la base. Hein. Et on a goûté donc un muscat de l'année, bon, qui m'a procuré absolument aucune émotion, je trouvais limite un peu écœurant, parce que ça peut être ça, le muscat. Et le même avec 30 ans d'âge. C'était absolument fantastique. Et donc ma question, c'est, est-ce que, enfin, parce que j'ai jamais eu le plaisir de goûter un muscat de Baume de Venise de 30 ans, est-ce que c'est des choses que vous travaillez? Est-ce que, enfin, est-ce qu'il y a vraiment une mutation du vin? Parce que là, pour le coup, il y avait vraiment une espèce de, enfin, transformation magique de ce vin de 30 ans. Est-ce que c'est des choses que vous commercialisez?
Alors, on ne commercialise pas. On a des vieilles bouteilles. J'aurais su.
J'aurais dû prévoir.
Tu aurais dû prévenir. Je t'aurais apporté ce qu'il fallait. Alors, en fait, c'est très intéressant ce que tu dis. Tu as, en fait, le muscat a une période de 4 ou 5 ans. Pendant laquelle on est vraiment sur le fruit, sur ce qu'on vient de décrire là. Après, tu as un âge ingrat, entre, je dirais, oui, la puberté, entre l'adolescence, il y a des boutons, entre 7-8 ans et 15 ans. Et après, ça redevient quelque chose d'extraordinaire, avec des notions de fruits à l'eau de vie, mais des choses superbes, totalement différentes du produit de départ, mais sublimes.
Bon, mais, il faudra qu'on prenne rendez-vous alors.
Tout à fait, quand tu veux.
Merci. Oui, ce qui a permis aussi de faire évoluer nos vendos naturels, le muscat, ce sont les outils de vinification aussi, avec les contrôles de température. De bien rentrer des vendanges plus froides pour garder un peu d'acidité au vin aussi et d'apporter de la légèreté ou de la finesse, de l'élégance à ce type de vin. Parce qu'il y a quelques années aussi, on vendangeait beaucoup plus tard qu'aujourd'hui. Et donc les vins, ça donnait des vins un petit peu plus, entre guillemets, un peu plus lourds, quoi, un peu plus chargés et tout. Et effectivement, avec cette évolution climatique, donc on vendage beaucoup plus tôt qu'il y a 30 ans en arrière, ou même moins que ça. Et voilà, on retrouve un peu de cette finesse et cette acidité qui masque la sucrosité du muscat. Et dans les évolutions, les associations, on l'a évoqué tout à l'heure, et de découvrir, de ne pas avoir peur d'innover et d'essayer plein de choses, le muscat s'associe très bien aussi avec tout ce qui est fromage. Et notamment les bleus, enfin les formes, les voilà, et qui apportent le voilà, tout à fait. Ça, ce sont des accords aussi, et où on peut découvrir le muscat autrement qu'à travers l'apéritif traditionnel ou les pâtisseries et tout ça. On peut l'associer quand même avec plein d'autres choses. Et le consommateur aujourd'hui, tu l'as évoqué Thomas tout à l'heure, où faut pas avoir peur de découvrir, d'essayer et d'innover et de voir un peu les associations un peu improbables. Et quand on avait au niveau du syndicat, on avait de l'ODG, on avait préparé le salon à Provine à Düsseldorf. On avait travaillé avec un fromager et un chocolatier, donc pour préparer des ateliers et proposer des associations. Et au départ, on était plutôt parti sur le côté traditionnel. On va proposer donc le fromage avec les rouges et le muscat avec les chocolats et tout ça. Et puis après dégustation, après travail, après des ateliers de consommation et tout ça, ben on a fait tout le contraire de ce qu'on avait prévu
fromage
au départ.
Fromage avec les sucrés.
Voilà. Et donc d'où le fait de se laisser aller, de découvrir, d'imaginer et de se laisser porter par le goût et par la sensation. C'est quand même primordial et c'est hyper important, quoi.
Il faut écouter ses sens.
Ah, puis j'aime bien ça, moi.
Venez faire un atelier à la Ferme Saint-Martin pour un atelier de dégustation.
C'était la section pub.
C'était la section pub. Mais en général, on se rend compte que pour plusieurs choses en cave, après réflexion, on se retrouve quelquefois à faire l'inverse de ce qu'on pensait au début. Et c'est comme ça qu'on est surpris et qu'on peut surprendre, ce qui est assez intéressant. Ouais.
Bon, mais le moment est tellement bien que ça fait quand même un bon petit moment qu'on parle. Ainsi s'achève l'épisode déjà consacré à Baume de Venise. Un petit moment quand même pour remercier à Interrhône, Marjorie Preux, qui a proposé aux appellations que nous fassions ces petites émissions. Spoiler, il y en aura d'autres, en tout cas au moins une autre, puisqu'on va l'enregistrer dès demain dans la région. Merci Jean-Paul Henresse, président de l'ODG Baume de Venise, qui nous a amené ici dans sa petite camionnette et nous a
fait la visite commentée avec les arrêts photos qui vont bien. Sur place, c'était Héloïse et Florence qui ont tout préparé pour nous accueillir ici, cette belle table au milieu des vignes, et qui ont coordonné donc, les accords parfaits qu'on a pu déguster en même temps que les vins, et qui, eux, étaient concoctés par l'auberge Saint-Roch, qui est un bon petit restaurant qui ne paye pas forcément de mine, mais dans lequel on mange vraiment divinement bien pour des prix. Amis parisiens qui nous écoutaient, voilà, qui vous laisse quoi. Je voudrais remercier aussi Valérie, qui est caviste à Paris, qui organise des dégustations avec sa société Eunotesting et qui nous a accompagnés dans l'exercice de la dégustation à l'aveugle. On a passé deux soirées, une avec Beaune de Venise, une autre avec une autre appellation, à déguster ces vins. Et c'était un vrai exercice, on a eu l'occasion d'en parler dans l'émission. Évidemment, merci à tous les domaines qui ont envoyé des échantillons. Je ne vais pas les citer ici tout de suite, mais je vais les rappeler dans le descriptif de l'épisode. Xavier Vignon devait être présent, il a malheureusement été empêché, pris dans des trains qui n'arrivent jamais.
Merci mais, SNCF.
Merci, voilà, peut-être. On déguste quand même son vin, et je dois dire que le vin rouge qu'on a goûté également du domaine Xavier Vignon, c'est un de ces vins dont tu disais, Laurent, que 24 heures après, 48 heures après, il exprimait beaucoup plus. Et du coup, il aurait très bien pu faire partie de cette sélection. On aurait pu parler aussi, effectivement, de la figure de Xavier Vignon, vigneron assez innovant, notamment dans sa communication. Voilà, ainsi s'achève cet épisode 92. On pourrait dire, venez à Baume de Venise, venez pour un week-end, pour une semaine, pour les vacances d'été, venez à Pâques, venez l'hiver, venez quand vous voulez, la région est sublime, les vins sont superbes et les gens sont chaleureux. Merci Thomas Julien. Merci Sophie Julien, merci Claude Chabran, merci Laurent et Patrice. On dit au revoir et à nos auditeurs, merci de nous écouter. On revient avec un épisode de La Terre à boire dans une paire de semaines à peu près.
Voilà, et merci au Mistral de ne pas avoir trop marqué sa présence.
Et santé.
Et santé. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. I'm so in love, there's nothing